Chapitre 19. Elle prit un ticket à l'horodateur le plus proche de l'endroit où elle avait garé la Ford Escape, sur le campus de l'université peuplé de chênes, de conifères et de ficus. À son grand soulagement, aucun étudiant ne manifestait ce jour-là pour une cause utopique quelconque. Elle n'aurait pas voulu être retardée par des gens en colère brandissant des pancartes, au risque d'être filmée par les médias. La bibliothèque, surmontée d'un beffroi et d'un toit en encorbellement, était abritée dans un superbe bâtiment. La zone réservée au poste informatique, située à l'extrémité du rez-de-chaussée, était déserte. Elle s'installa sur la dernière rangée, afin que personne ne puisse se poster derrière elle. Le docteur Berthold Schenek n'était pas le premier venu. Une recherche à son nom faisait surgir une telle quantité de liens qu'il lui aurait fallu plusieurs semaines pour lire tout ce qui avait été écrit à son sujet. Elle se rendit sur le site de Schenek Technology, qui recelait une mine d'informations. On y trouvait de nombreuses vidéos détaillant les travaux de Schenek afin de recueillir les dons de l'industrie comme des autorités fédérales. La plus récente montrait Schenek sous les traits d'un cinquantenaire d'allure jeune avec d'épais cheveux noirs, les traits d'un oncle bienveillant et un sourire aussi doux que celui des marionnettes les plus avenantes du Muppet Show. En plus d'être un géant intellectuel, Schenek était un commercial sans pareil qui partageait d'une façon contagieuse son enthousiasme pour la biotechnologie auprès des capitaines d'industrie et des hommes politiques qui assuraient le financement de ses activités. La porte de la salle s'ouvrit et un homme d'une trentaine d'années fit son apparition. Grand, bronzé de façon si parfaite qu'il donnait le sentiment de suivre des séances d'UV, un sourire éclatant aux lèvres, il avait choisi une coiffure savamment décontractée. Son blouson de sport d'un bleu élégant était suffisamment large pour lui permettre de porter une arme. Il portait une chemise en chambray dont les pans restaient libres, un pantalon de toile gris pâle, des roquepores à semelles de caoutchouc qui l'autorisaient à courir en cas de besoin, avec plus d'efficacité que des mocassins. Jane, qui le savait pour privilégier elle-même les roquepores, crut identifier un flic en civil. Loin de lui rendre son sourire, elle reporta son attention sur son écran, tout en continuant de le surveiller du coin de l'œil. Il s'installa devant un ordinateur, tout au bout de la rangée qu'elle avait elle-même choisie. Jane se plongea dans les transcriptions des vidéos consacrées à Schenek et sélectionna l'une d'elles, dans laquelle il était question de protéines photosensibles, d'implants cérébraux et de logiciels de transmission de pensée. Un sujet comparable au documentaire qu'elle avait vu à la télévision 6 jours avant la mort de Nick. Elle crut reconnaître le visage de Schenek et le soupçonna d'être l'un des intervenants de ce reportage. Persuadée que ce reportage l'avait marquée parce qu'elle l'avait regardé ce soir-là, juste avant que Nick la rejoigne au lit, elle posa une main sur ses lèvres et prononça discrètement « Tu me fais fondre ». Quelques mètres plus loin, l'inconnu n'avait toujours pas allumé son ordinateur. Il passa un appel de moins d'une minute sur son portable, d'une voix si basse que Jane n'en comprit pas un mot. Elle avait conscience que le temps pressait, sans se sentir en danger dans l'immédiat. Les conspirateurs qui l'identifiaient chaque fois qu'elle se rendait sur un site sensible pouvaient fort bien l'avoir repéré si Schenek était impliqué dans l'accroissement du nombre des suicides, mais ils n'avaient matériellement pas eu le temps d'accourir à la bibliothèque. La situation était différente de celle de la veille à San Diego, au sortir de sa visite à Gwyneth Lambert. Jane se sentait moins vulnérable. Elle passa rapidement en revue les descriptions des vidéos consacrées à Berthold Schenek. Son attention fut attirée par les notions d'implants cérébraux sous la forme de nanomachines ainsi que la possibilité pour les éleveurs de mieux contrôler le bétail, et elle cliqua sur les documents correspondants. Tout en lançant la vidéo, Jane constata que l'homme au roquepore passait un nouvel appel. Avec son charme rassurant, sa maîtrise du sujet et sa voix pleine d'autorité, Berthold Schenek vanta à l'écran les mérites de systèmes futuristes qui permettraient bientôt de mieux suivre les animaux d'élevage. Le principe consistait à fabriquer des nanomachines à partir de quelques molécules invisibles à l'œil humain. Programmées comme des ordinateurs, Elles étaient injectées aux animaux sous forme d'unités microscopiques qui se rejoignaient pour former un réseau. Faute de se répliquer, elles ne présentaient aucun danger et s'alimentaient de façon autonome en puisant dans les réserves électriques de l'animal concerné. Ces nanomachines étaient capables de recueillir et de transmettre des informations relatives à la santé de ce dernier, et même de signaler l'apparition d'une maladie contagieuse avant qu'elle se propage. Grâce à cette nouvelle technologie, les éleveurs de volailles ou de bétail seraient bientôt en mesure d'éviter les rivalités entre animaux, de même que les ruées et autres mouvements de panique dommageables au cheptel. « Excusez-moi, » fit la voix de l'homme en roquepor. Jane tourna la tête dans sa direction. « Vous êtes étudiante ici ?»«
Oui, »
mentit-elle. « Dans quelle discipline ?»«
Le développement de l'enfant. »«
Excusez-moi, mais je suis en train de regarder une vidéo, » déclara-t-elle en retournant à sa tâche. En supposant que quelqu'un ait entendu sa conversation avec Sidney Root. En supposant qu'il la soupçonne d'être restée en Californie. En supposant qu'Arnold Schenek soit mêlé à l'affaire. En supposant que moins d'un quart d'heure après sa conversation avec Sidney, ses ennemis aient remarqué que quelqu'un effectuait des recherches sur le site de Schenek Technology depuis la bibliothèque du Pierce College. Si toutes ces suppositions étaient avérées, et surtout s'ils bénéficiaient de l'appui d'agences gouvernementales, ils étaient capables de la localiser infiniment plus vite qu'elle ne l'avait jamais imaginé dans ses angoisses les plus folles. Elle continua de regarder l'écran, le visage légèrement en biais pour ne pas manquer un seul geste de son voisin s'il se levait brusquement de sa chaise. L'inconnu, tourné vers elle, n'avait toujours pas allumé son ordinateur. Berthold Schenek, se servant d'un groupe de 40 souris blanches dotées de nano-implants cérébraux, montrait comment un tel principe pourrait servir un jour à gérer des animaux de taille plus importante. Les souris, lâchées dans une pièce, couraient dans tous les sens jusqu'au moment où un technicien les stoppait net en transmettant un ordre aux implants par le biais d'un ordinateur. On le voyait ensuite diriger à sa guise les 40 rongeurs qui traversaient la pièce d'un mur à l'autre, formaient une seule file, tournaient en rond, formaient 4 sous-groupes de 10 individus qui se dirigeaient chacun dans un coin différent où ils attendaient sagement les instructions suivantes. La vidéo se termina au grand soulagement de Jane, glacée par ce qu'elle venait de voir. Elle refermait la session lorsque l'homme en roquepore se tourna de nouveau vers elle. « Mes amis m'appellent Sonny. Et vous ?»«
Mélanie, »
mentit-elle. « Vous avez beaucoup d'allure, Mélanie. »«
Je vous sens tendue, mais avec du caractère. »
Cette réflexion lui rappela qu'elle avait une perruque violette et portait une tenue voyante, sans parler de son maquillage. « J'adore votre look. Vous êtes en première ou deuxième année ?»«
Première, »
répondit-elle en se levant de sa chaise. Il l'imita. Jane saisit la crosse du Eclair & Coke dissimulée sous son blouson en le voyant glisser la main à l'intérieur de sa veste. Loin de sortir une arme à feu, il tira de sa poche un étui en cuir semblable à ceux que privilégient les personnes munies d'un badge. Il y puisa une carte de visite. « Mes équipes et moi avions rendez-vous avec le directeur de la bibliothèque. Nous envisageons de tourner un film ici. » Il lui tendit la carte. Elle sentit se relâcher la boule qu'elle avait à l'estomac et ravala la bouffée d'acide qui lui envahissait la gorge. Elle ramassa son sac. Comme elle ne faisait pas mine de s'emparer de la carte, il fit un pas vers elle.
« Je ne m'intéresse pas vraiment au cinéma, » se justifia-t-elle.
« Il faut parfois laisser le destin vous tordre le bras, » réagit-il avec ce qu'il croyait être un sourire charmeur. « Et puis, nous ne sommes pas obligés de rester dans la sphère professionnelle. »«
Je suis mariée, » dit-elle en lui tournant le dos.
« Moi aussi. C'est ma seconde femme. La vie est compliquée, vous ne trouvez pas ?»
Elle pivota sur elle-même. Ses dents blanches étaient presque phosphorescentes.
« Ouais, » fit-elle.
« Elle est même très compliquée. »«
Prenez ma carte et regardez mon nom. Vous le reconnaîtrez. Qu'avez-vous à perdre ? On pourrait dîner ensemble, un dîner amical, rien de plus. Elle eut une nouvelle remontée d'acide. Le sac en bandoulière sur l'épaule gauche, elle enfouit la main droite à l'intérieur de son blouson, sortit le pistolet et le lui mit sous le nez avec un calme olympien. Le motif gris et vert de la chemise de son interlocuteur accentua le contraste avec la rougeur qui s'alluma derrière son bronzage artificiel. Il resta muet de saisissement. Jane n'en revenait pas de sa propre réaction, mais elle n'avait pas pu s'en empêcher. En guise de dîner, je vous propose de vous fourrer une pomme dans la bouche, de vous enfouir dans un lit de charbon de bois et de vous déguster ensuite.
J'ai deux enfants, prononça-t-il péniblement.
J'en suis ravie pour vous et désolée pour eux. Maintenant, retournez vous asseoir là-bas.
Il recula jusqu'à la chaise qu'il occupait quelques instants plus tôt.
Vous allez rester là bien sagement pendant 5 minutes, Sonny. 5 bonnes minutes. Si jamais vous avez la malencontreuse idée de me suivre, je prive définitivement vos enfants d'un père minable. C'est compris ?
Oui.
Elle rangea son arme et lui tourna le dos de façon à le tester sans qu'il bronche. Quelques instants plus tard, elle quittait la pièce en éteignant la lumière. Il aurait tout le temps de réfléchir dans le noir.